France Inter.
Aujourd'hui dans Affaires Sensibles et pour le 1500e numéro inédit de l'émission, mais oui, la révolte des gueux du midi. En mars 1907, les vignerons du Languedoc sont aux abois. Voilà plusieurs années qu'ils sont essorés par une crise viticole terrible qui appauvrit l'ensemble de la région. Ils le clament. La cause de tous ces malheurs, c'est la prolifération des vins falsifiés qui empoisonnent le marché du vin, le vrai, le sacro-saint. Alors, un dénommé Marcel Albert, petit viticulteur, interpelle le gouvernement. Il faut faire voter des lois répressives. Et vite. Tous les dimanches, pendant 3 mois, cet orateur hors pair fait résonner les revendications de toute une corporation dans les meetings qui fédèrent peu à peu toute la population du midi. Ce sont les plus grands rassemblements de la Troisième République et ils sont pacifiques. Mais comme rien n'y fait, les organisateurs, qui se surnomment eux-mêmes les gueux, proclament la grève de l'impôt et la démission des maires de la région. La réaction du premier flic de France à l'époque, un certain Georges Clémenceau, est immédiate et impitoyable. L'armée va réprimer la révolte. Notre invité aujourd'hui, Arnaud-Dominique Hout, historien, spécialiste de la belle époque et de ses peurs, auquel il a consacré un livre chez Talandier, paru en 2022. Affaires Sensibles, une émission de France Inter, en partenariat aujourd'hui avec Retro News, le site de presse de la BNF, récit documentaire Margot Boudge, rédaction en chef Franck Cognard, chargé de programme Rebecca de Nantes, réalisation Frédéric Milano.
Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter.
Février 1907, village d'Argeliers, département de l'Aude. Un homme feuillette un journal, assis à la table d'une cuisine défraîchie. Il a 56 ans, une barbe façon Landru et la peau hâlée. Un petit verre de vin qu'il produit lui-même est posé à côté de lui. Vous l'avez compris, cet homme, qui s'appelle Marcelin Albert, est viticulteur. Il possède 7 hectares de vignes et en buvant une lampée de rouge, il parcourt les titres de la presse. Tiens, on annonce la venue à Narbonne d'une commission d'enquête parlementaire sur la situation de la viticulture. Alors, le visage de Marcelin Albert s'éclaircit. Enfin, ces gens de Paris viennent voir ce qui se passe dans notre midi viticole. Enfin, ils vont constater nos malheurs, entendre nos revendications. Bien, Marcelin Albert referme le journal. Il a pris sa décision. Il va la rencontrer, cette commission, et il n'ira pas seul. Car cette crise viticole qui frappe le Languedoc, c'est l'affaire de tous. Depuis l'année 1900, en effet, le vin du Midi va mal. Alors quand on parle du Midi, ici c'est essentiellement la région du Languedoc, l'Aude, les Pyrénées-Orientales, l'Hérault, le Gard. Pourtant on ne dirait pas que le vin va mal. À voir les superbes vignobles qui se déploient à perte de vue sur les plaines arides et caillouteuses, on a le sentiment plutôt contraire. Et puis elle est loin, la crise du phylloxéra, ce parasite qui a dévasté la vigne à la fin du 19e siècle. Grâce à l'introduction de plants américains plus résistants, la vigne a été reconstituée, régénérée. Aujourd'hui, les raisins qu'elle donne sont des fruits magnifiques qui génèrent de bons petits vins de table conçus pour être envoyés en masse à Paris par train. Le problème, c'est qu'ils ne se vendent plus, ou à des prix dérisoires. Pour une bonne partie de la population du Midi, dont la subsistance est largement adossée au commerce du vin, c'est une catastrophe. Comme le raconte le film « La révolte des gueux » réalisé par Raymond Lamy en 1949.
La misère était affreuse. Elle l'était chez les ouvriers agricoles que les propriétaires prétendaient ne plus pouvoir payer, et aussi chez les petits et moyens viticulteurs. Tous les âges étaient frappés. Tous les corps de métier étaient touchés. Les tonneliers, les transporteurs, les forgerons et tous les artisans de la campagne. Les petits commerçants ruinés par l'appauvrissement de leur clientèle. C'était la misère.
Oui, la misère. Alors on cherche les responsables. À quoi est due cette crise de mévente ? Eh bien, principalement à la surproduction viticole d'un territoire qui pratique la monoculture. En somme, le Midi produit plus que le marché ne peut en absorber. Mais pour la plupart des vignerons, la source de leurs maux est ailleurs. Ils doivent faire face à une concurrence déloyale, celle des vins falsifiés. pâles et fauves. Ils ont d'abord été produits quand la vigne était plus fertile, mais ils ont continué à prospérer. Pour les fabriquer, la méthode est simple. Sucrer le vin en abondance pour renforcer le taux d'alcool, ou le mouiller, c'est-à-dire l'allonger avec de l'eau. Voire, utiliser des raisins secs à la place du raisin frais ou de l'acide, du riz, du colorant à la place du raisin tout court. Tout cela donne des mixtures peu ragoûtantes, mais bon marché, qui trouvent leur place sur les tables des ménages modestes et qui participent à faire chuter le cours du vin naturel. La fabrication de cette piquette a beau être considérée comme frauduleuse, elle n'est guère réprimée. Pire, elle serait facilitée par l'État. Le gouvernement n'a-t-il pas abaissé drastiquement la taxe sur le sucre, instrument principal des vins falsifiés et pour faire plaisir aux producteurs de betteraves ? Inadmissible pour les viticulteurs, mais aussi pour les députés du Midi, qui à la Chambre montrent régulièrement au créneau pour demander « Mais quand va-t-on enfin empêcher les fraudeurs de nuire ?» En février 1907, l'Assemblée nationale tranche. Une commission d'enquête parlementaire se rendra dans le Midi pour prendre la mesure de la crise du vin et proposer des solutions. Une commission qui s'arrêtera à Narbonne, on l'a dit, Marcel Albert n'entend pas s'y rendre seul. Le 11 mars, 87 hommes partent d'Argeliers. C'est dans un nuage de poussière qu'avance à pied tout ce que le village compte de travailleurs de la vigne. Quand Marcelin Albert leur a dit « Vous viendrez avec moi à Narbonne », ils ont tous dit oui. Il faut dire que ce Marcelin est une figure locale. Voilà des années que ce viticulteur et ex-cafetier harangue les foules sur les places des villages. Son combat, défendre le vin naturel et pourfendre les fabricants de vins frelatés. Quand il a grimpé sur un platane pour se faire entendre, un frisson a parcouru l'auditoire. Parce que Marcelin parle bien, comme l'explique l'historien Jean Sagne.
C'est un personnage tout à fait particulier. C'est un homme qui a une instruction secondaire, ce qui n'est pas évident à cette époque-là, qui fait du théâtre. Donc ça veut dire que c'est un homme qui sait poser sa voix, qui sait se tenir en public, qui est capable de jouer les rôles les plus difficiles du théâtre français. Et donc il ne va pas être emprunté, il ne va pas être gêné de parler à des foules extrêmement importantes. Il a même un certain talent oratoire, hein, ça qui est reconnu par tous les observateurs à l'époque.
À midi, les vignerons sont à Narbonne. Et c'est avec une certaine inquiétude que Georges Cazot-Cazalet, président de la commission, voit 87 paysans débarquer en pleine réunion. Marcelin Albert se détache du groupe. Non, ils ne sont pas ici pour faire du tapage, mais pour remettre une pétition qu'ils ont tous signée et qu'ils adressent au gouvernement de centre-gauche de Georges Clemenceau. Ce qu'ils réclament, c'est une véritable loi anti-vin frauduleux. Une surtaxe sur les sucres et une exemption d'impôts qu'ils ne peuvent plus payer de toute façon. Ben oui, ils sont pris à la gorge. Cazot-Cazalet les remercie pour cette solidarité dans le combat. Et il dit qu'il fera ce qu'il peut. Bon, c'est toujours ça de prix. Les vignerons n'ont plus qu'à rentrer à Argeliers. Mais que faire maintenant? Attendre que la commission rende son rapport? Non, il faut faire entendre les cris du Midi qui agonisent. Le soir même, Marcelin Albert crée le comité d'Argeliers dont il assurera la présidence. Et trois mois de meeting à travers le Midi commencent.
Guerre aux bandits, narrons notre misère. Et qu'en merci, guerre aux fraudeurs, oui, guerre mort aux exploiteurs.
C'est en chantant la Vigneronne, composée pour l'occasion et que nous venons d'entendre, que le 24 mars 1907, le comité d'Argeliers se rend à Salelles-d'Aude au son du clairon. Face à une assemblée de 300 personnes, défilent plusieurs orateurs, dont Marcelin Albert, bien sûr. Au programme, les vins frelatés qui empoisonnent le marché du vin naturel. On va continuer d'occuper le terrain, promet ce bon Marcelin. Et ils sont tous là le dimanche suivant, à Bise-Millervois, puis le suivant à Ouveillant, puis le suivant du suivant à Coursan. Bref, le mouvement fait tache d'huile. De nombreux comités viticoles font allégeance au comité d'Argeliers. Et bientôt, tout ce petit monde se réunit au sein d'une fédération. À chaque meeting se presse une foule de plus en plus nombreuse, de plus en plus bigarrée. Il y a des hommes, mais aussi des femmes, souvent signés aux vendanges. Il y a des petits propriétaires déclassés, mais aussi des ouvriers agricoles. Pourtant, Au départ, les syndicats ouvriers ont été sceptiques. S'afficher avec les patrons contre qui ils ont fait grève quelques années plus tôt, un peu chelou, comme on dirait aujourd'hui. Mais ils se sont laissés convaincre. Ils comprennent qu'ils ont tout intérêt à faire front commun dans un mouvement qui se bat pour l'ensemble d'un écosystème, celui du vin du Languedoc. Oui, le mouvement s'adresse à tous ceux qu'impacte la crise viticole, sans distinction de classe ni d'appartenance politique. C'est en tout cas ce qu'affirme le comité d'Argelier dans le journal qu'il a créé, Le Tocsin.
Nous sommes ceux qui travaillent et qui n'ont pas le sou. Nous sommes les proprios décavés ou ruinés, les ouvriers sans travail ou peu s'en faut, les commerçants dans la purée ou aux abois. Nous sommes ceux qui crèvent de faim. Nous sommes ceux qui ont du vin à vendre et qui ne trouvent pas toujours à le donner. Nous sommes ceux qui ont des bras à louer et qui ne peuvent guère les employer. Nous sommes ceux qui crèvent de faim. Nous sommes ceux qui aiment la République, ceux qui la détestent et ceux qui s'en foutent. Nous sommes ces ardents défenseurs ou ces adversaires déclarés, radicaux ou conservateurs, modérés ou syndicalistes, socialistes ou réactionnaires. Nous sommes ceux qui ont leurs jugeotes et aussi leurs opinions. Mais nous avons un ventre et nous sommes ceux qui crèvent de faim.
Ils ne veulent plus crever de faim, ceux qui se surnomment maintenant les gueux. Et cela se lit sur les pancartes qu'ils brandissent à chaque meeting, devenues bientôt de véritables manifestations avec des slogans plutôt efficaces comme « Le ventre est sourd quand il est creux. Avec du vin, il faut du pain. Vivre en travaillant ou mourir. » Et partout, comme un mantra, à mort les fraudeurs. Les mots sont durs, mais les attitudes des manifestants sont calmes, pacifiques. Aucune violence, aucun débordement, telle est la consigne du comité d'Argelier. C'est là la seule manière de ne pas s'aliéner l'opinion publique. Et ça marche. De nombreux maires du Languedoc affichent leur sympathie et leur soutien aux paisibles manifestants et à leur leader, Marcel Albert, qu'on compare dans la presse à un rédempteur, un prophète de la viticulture. Un homme à la fois simple et charismatique, engagé mais désintéressé, républicain mais qui ne fait pas de politique. Un nouveau Jésus, pour reprendre les mots de l'Humanité. Le 5 mai, Jésus, donc, est rejoint à la tribune par Ernest Ferroul, maire de Narbonne. Plus qu'un soutien, cette figure du midi socialiste, à l'extrême gauche de l'échiquier politique, s'apprête à devenir le deuxième homme du mouvement. Ferroul, 54 ans, a pourtant longtemps retardé la révolte vigneronne avec circonspection. On dit même qu'il aurait qualifié Marcelin Albert de fou. Mais Ferroul, comme les autres, a été gagné par la force du mouvement qui réunit 80 000 manifestants dans sa ville de Narbonne. Et il ne tarde pas à proposer au comité d'Argelier de prendre les mesures les plus musclées. Et si on lançait un ultimatum au gouvernement, hein ? Oui, mais c'est pas trop belliqueux, questionne Marcelin Albert. Mais non, lui répond le maire. Bon, le réticent Marcelin finit par accepter. Voilà presque deux mois que ses fidèles font résonner leur voix dans le midi. Or, le gouvernement reste sourd. Le président du conseil, Clémenceau, n'est même pas venu à leur rencontre, comme il l'a fait à Lens, quand les mineurs ont fait grève. Alors oui, il est temps de faire monter la pression. Dont acte. Le 12 mai, c'est sous les hurrahs et depuis le meeting de Béziers que Ferroul lance cet ultimatum.
Si à la date du 10 juin, le gouvernement n'a pas mis le Parlement en demeure de lui fournir d'urgence les armes dont il croira avoir besoin pour faire cesser cette effroyable crise et n'a pas pris les dispositions les plus radicales pour provoquer le relèvement du cours des vins, la grève des contribuables sera proclamée et les maires démissionneront.
Le 13 mai, à l'Assemblée nationale, l'agitation est extrême. Clémenceau, chef du gouvernement, n'est pas là. Mais les députés du midi interpellent Joseph Caillaux, ministre des Finances. « Avez-vous entendu les suppliques des vignerons, monsieur le ministre ? Et comment comptez-vous y répondre ? Car c'est tout le Languedoc qui réclame une loi anti-vin frauduleux et sa juste application, il faut la lui donner. » Caillaux grimpe à la tribune. « Oui, il convient déposer un projet de loi, mais pas avant plusieurs semaines. De toute façon, la commission d'enquête parlementaire n'a pas rendu son rapport, alors ?» Mais les députés du midi insistent. Quel geste peut-on faire pour les vignerons ? On ne peut quand même pas les laisser dans l'expectative alors que les municipalités menacent de démissionner. Probablement énervé qu'on lui mette la pression comme ça, Caillaux finit par lâcher. Ne vous laissez pas impressionner par ces manifestations, ce n'est que du battage. Aussitôt, le journal La Liberté s'enflamme.
Jamais, croyons-nous, un ministre n'a osé traiter publiquement des citoyens français avec un pareil mépris. Ils sont des centaines de milliers qui crient famine. Ils manifestent avec une discipline et un calme qui font l'étonnement et l'admiration de la France entière. Ils se tournent vers les pouvoirs publics. Est-il rien de plus naturel ? Et ils implorent leur protection. Ils attendent une parole de réconfort et on leur répond par une offense.
Non, ce n'est pas du battage. Voilà ce qu'on peut lire en français ou en occitan sur les pancartes des manifestants qui sont toujours plus nombreux. 170 000 à Perpignan le 19 mai, 250 000 à Carcassonne le 26, 300 000 à Nîmes le 2 juin. La colère à l'égard du gouvernement grandit. Ça et là, les incidents se multiplient en marge des manifestations. Et ce n'est pas le projet de loi antifraude déposé à la hâte avant l'échéance de l'ultimatum qui risque de faire changer les choses. Trop permissif au bénéfice du sucrage, dénonce le comité d'Argelier. Alors, les mairies vont-elles collectivement démissionner ? C'est ce qu'on va voir. En ce matin du 9 mai, Montpellier est plein à craquer. 800 000 personnes sont là. Un rassemblement record pour la Troisième République. On attend Marcelin Albert et Ernest Féroul. Les voilà qui approchent. Barbe brune pour l'un, blanche pour l'autre. Ils sont portés en triomphe jusqu'à la tribune installée sous les arbres. C'est plus que de l'enthousiasme, c'est du délire, note le petit Parisien. Marcel Albert déclare « Êtes-vous d'avis qu'il faut prendre des mesures énergiques ?» Et à la foule qui crie son assentiment, il déclare « La démission de toutes les municipalités proclamée, ainsi que la grève de l'impôt. » Aussitôt, Francillon, premier adjoint du maire de Carcassonne, jette son écharpe tricolore dans les airs. Et Féroul, à ses mots saisissants, « Demain, un drapeau noir flottera sur la mairie de Narbonne. » Voilà, c'est officiel, le Midi entre en révolte, le sabotage administratif est déclaré.
T'as le vin, t'as pas le vin, dis-moi où je te saigne. Où tu préfères les arbres noirs dans l'ardoise. Moi, dans un dernier ciel, tu veux rester voir ça. C'est la jolie maison qui nous a d'abord plu. Mais c'était l'été et le bord de l'étang était net. Or désormais s'y amassent les peaux mortes des saules, les métaux de lambeaux de chandail. Et tes mots portent le sceau de mes mots méchants et de mes failles, le sceau de mes failles.
Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, la révolte des gueux du Midi.
Affaires Sensibles, Fabrice Drouel.
16 juin 1907, Paris. Dans son bureau de la place Beauvau, Clémenceau ne décolère pas. Pendant des mois, le président du Conseil et ministre de l'Intérieur a tenté d'ignorer l'agitation du Midi, se contentant d'envoyer ses ministres au créneau. Le mouvement va s'enliser, répétait-il. Ou bien, oh, je connais le Midi, tout cela se terminera par un banquet. Peut-être. Mais pour l'instant, on en est à plus de 400 élus locaux démissionnaires. Alors quand il apprend l'abandon de poste des maires, Clémenceau envoie aussitôt une lettre à ses frondeurs pour les admonester, les rappeler à leurs responsabilités et à la loi. C'est vrai, les membres d'un conseil municipal entier n'ont pas le droit de démissionner en même temps. Certains restent silencieux, d'autres répondent qu'ils ont agi sous la pression, tenaillés par la peur qu'on brûle leur maison s'ils résistaient au mouvement général de désobéissance civile. Clémenceau fulmine. Mais pour qui se prennent-ils, ce Marcelin Albert, ce Féroul? Pensent-ils qu'ils peuvent plonger la région dans l'anarchie, créer un état dans l'état? C'est décidé. Le président du conseil va faire arrêter les leaders de la révolte des gueux. Et pour cela, celui qu'on surnomme le premier flic de France, répétons-le, va faire appel à l'armée. Le 18 juin 1907, les Narbonnais regardent avec inquiétude les régiments de soldats venus des quatre coins de la France prendre leur quartier dans leur ville. Et le bruit court, ils viennent arrêter Ernest Féroul. Alors, la foule prend position devant la maison de l'ex-maire, prête à le défendre. Ça commence au moment où 20 gendarmes, 2 compagnies d'infanterie et 2 escadrons de cavalerie font leur apparition au cœur de la nuit. C'est immédiatement un concert de huées. Mais Féroul parie à sa fenêtre. Non, il n'opposera aucune résistance. Et il appelle tout le monde à rester calme. Plusieurs soldats mettent l'ex-maire en état d'arrestation. Le petit Parisien raconte.
Ernest Féroul prononça quelques mots d'adieu. Tous les assistants, violemment émus, fondirent en larmes. Puis Monsieur Féroul monta avec quelques amis dans la voiture, qui se dirigea vers la caserne. La foule essaya de barrer le passage à l'escorte, et les cuirassiers durent charger pour déblayer le terrain. Un peu plus loin, des pierres furent lancées contre l'escorte. Un capitaine fut atteint, mais brièvement. À 3 reprises, les cavaliers durent charger sabre au clair. Après une courte station à la caserne, Féroul a été embarqué dans un train spécial qui stationnait en dehors de la ville et qui est parti immédiatement pour Montpellier.
En prison à Montpellier, Féroul retrouve plusieurs membres du comité d'Argelier, également mis aux arrêts. Mais pas Marcelin Albert. Ce dernier, dit-on, a pris la fuite. Le 19 juin, Narbonne est affligée. « On nous a dérobé Féroul, notre sauveur », lit-on sur les affiches. Alors, toute la journée, les Narbonnais invectivent les soldats qui quadrillent la ville. À 20h, un groupe d'hommes se présente à la sous-préfecture. Ils veulent voir le préfet, représentant de l'État. « Rendez-nous Féroul », crie-t-il. Mais la porte reste close. Alors, la foule commence à la démolir et l'incendier. C'est la bagarre avec les forces de l'ordre. Soudain, un escadron de cavaliers charge sur la foule. Depuis leurs fenêtres, des Narbonnais leur jettent des chaises, des tonneaux, des pierres. Les soldats ripostent à coups de balle. Le cafetier Louis Ramon est tué sur le coup. Le 20 juin, Narbonne se réveille endeuillée. À l'émeute a répondu la répression. Le comité viticole local, qui a pris les commandes de la ville depuis la démission des municipalités, publie un appel au calme. Souvenez-vous des recommandations de Féroul, restez tranquilles. Mais la colère gronde dans la population. À 14h, un groupe d'hommes s'empare d'un policier. Il a participé à l'arrestation de Féroul, crie-t-on. Alors l'agent est molesté et jeté dans le canal. Il est finalement secouru par des badauds qui décident de l'emmener à la mairie pour le mettre à l'abri. Tandis que le policier est escorté par plusieurs Narbonnais, d'autres menacent de lui faire la peau. Un témoin de l'événement, filmé en 1963 dans l'émission La Roue Tourne, se souvient.
Mais les gens d'ici, de la ville, l'ont retiré du canal. Et alors, bien entendu, on l'a accompagné jusqu'à là-bas. Et quand il est arrivé, ça a été le premier coup de feu, quand il est arrivé devant la place de la mairie, il a dit à moi, voilà. C'est là qu'est parti quelques coups de feu.
Les militaires ont tiré sur la foule sans sommation et sans commandement. Sur le sol, c'est un carnage. 5 cultivateurs, domestiques et commerçants succombés aux balles. Entre les cadavres de Léon Meignot, Henri Rouquier, Gaston Pagès et Hilde Danjard, gît le corps d'une femme, Cécile Bourrel. Ils voulaient du pain, ils ont reçu du plomb, résume un membre du comité viticole de Narbonne. À l'Assemblée, c'est la consternation. Mais Clémenceau reste droit dans ses bottes. Il est arrivé ce qui devait arriver, déclare-t-il sans ciller. L'armée n'a fait que faire respecter la loi. Oui, sauf que son arrogance habituelle l'a aveuglé, monsieur Clémenceau. Il va voir ce que l'armée lui réserve. Le 20 juin, À la caserne d'Agde, les soldats du 17e régiment d'infanterie tournent comme des lions en cage. On a tiré sur la foule à Narbonne, répète-t-il. Une aberration pour ces gars du pays qui ont grandi à l'ombre des vignes, justement. Alors, à la colère succède l'effroi. Et si la répression venait à toucher également Béziers, dont ces militaires sont originaires et où l'agitation règne, va-t-on aussi tuer leur famille ? Tous à Béziers, crie l'un d'eux. Après avoir pillé la réserve de cartouches et de fusils, les soldats abandonnent leur poste. Ils se mutinent. François-Joseph Rabat, qui en était, se souvient dans l'émission Mémoire de France en 1982.
Ils ont organisé la marche, alors sur Béziers. Alors après Cernes, on fait peut-être 2 ou 3 kilomètres, nous avons vu arriver un cavalier seul. C'était le général de la croisade. Alors il est arrivé, enfin, il nous a bien parlé, il a dit qu'il fallait nous arrêter. Enfin, il a fait tout son possible, mais on a continué quand même. Et alors quand il a vu qu'il n'y avait rien à faire, il s'est mis comme ça, tuez-moi, il dit, mais ne rentrez pas dans le pays comme ça. Et on a continué, on n'a pas tué le général, on l'a pas revu.
Arrivé à Béziers, les mutins sont acclamés, des fils croissent en l'air. Et ils fraternisent avec la population, qui leur apporte du pain et du vin sur l'allée où ils dressent leur camp. Informés, le gouvernement demande au comité de Béziers de les ramener à la raison. Leurs actes pourraient avoir des conséquences désastreuses. Alors, les soldats du 17e acceptent de retourner à leur caserne, après avoir obtenu de Clémenceau la promesse de ne pas être punis individuellement. Arrivés à Agde, ils sont désarmés. Ils évitent le conseil de guerre, mais seront relégués dans un bataillon du désert tunisien. Et une chanson sera composée en leur honneur.
Salut, salut à vous, braves soldats du 17e. Salut, braves piou-piou, chacun vous admire et vous aime. Salut, salut à vous, à votre geste magnifique. Vous auriez, en tirant sur nous, assassiné la République.
Oui, il rentre dans la légende. Mais à la chambre, la bravade des soldats du 17e sème la panique. Dans cette société militariste et militarisée, que peut-il y avoir de plus grave aux yeux des autorités que cette action d'un incroyable courage pour un militaire que de se mutiner ? Clémenceau l'affirme, les événements du Languedoc prennent le caractère d'une insurrection et la République risque de ne pas y survivre. Alors les députés votent en majorité la confiance au gouvernement pour assurer le respect de la loi et hâter la pacification du Midi. Autrement dit, l'armée continuera de tenir le terrain. Parmi ses missions, arrêter Marcelin Albert. Mais le 22 juin, coup théâtre, celui-ci se présente à Paris chez Clémenceau. Oui, Marcelin Albert, place Beauvau, alors qu'il est recherché par toutes les polices. Comment en est-on arrivé là ? Et comment est-il arrivé là ? Eh bien, il est venu en train, déguisé, après être resté caché dans le clocher d'Argelier. De peur que son arrestation ne crée des incidents, il a préféré s'y soustraire. Et il est là, aujourd'hui, pour demander au président du Conseil en personne la libération de Féroul et du comité d'Argelier. Le retrait des troupes du Midi et des mesures de répression contre les Fauvins. Clémenceau, qui n'en croit pas ses yeux, fait entrer Marcelin Albert dans son bureau. Alors, que se disent-ils exactement ? Mystère. Mais le leader de la révolte des Gueux repart après avoir promis au président du Conseil de retourner dans le Languedoc, faire rentrer les municipalités dans la légalité avant de se constituer prisonnier. En échange, Clémenceau promet qu'il sera attentif à la cause des vignerons. En regardant Marcelin Albert sortir de son bureau, Clémenceau sourit. Mais quelle idée d'être venu se jeter à ses pieds. Ce Marcelin est décidément un romantique, certainement pas un politique. Clémenceau, lui, est un vrai politique. Et il convoque aussitôt des journalistes pour leur raconter cette entrevue. Voilà comment le journal La République résume cet entretien. Version Clémenceau.
Monsieur Clémenceau a parlé avec âpreté, avec véhémence à Marcelin Albert. Il lui a fait des durs reproches. Il a retracé devant lui les douloureux événements dont le Midi fut ces jours-ci le théâtre. Et c'est sur lui qu'il en a fait retomber les lourdes responsabilités. Ce tableau rapide et brusque du désordre où tout un pays est jeté, cette évocation des conflits qui viennent d'ensanglanter plusieurs villes, ont violemment ému Marcelin Albert. Longuement, il a pleuré. Monsieur Clémenceau s'est tu. Un instant après, Marcelin Albert s'est écrié « Si je pouvais réparer le mal que j'ai fait !»
Ce n'est pas un chef, c'est un malheureux, conclut Clémenceau, précisant qu'il a proposé à Marcelin Albert un billet de 100 francs pour reprendre le train et que celui-ci a accepté. Mais quand il revient à Argelier, l'accueil est glacial. Comment a-t-il pu aller s'abaisser chez Clémenceau ? Le malheureux a beau se justifier, dire que jamais il ne s'est repenti, que ses yeux sont restés secs et qu'il n'a pas vu de mal à accepter 100 francs qu'il allait de toute façon rembourser. Mais partout, on murmure qu'il s'est vendu au pouvoir. Sa proposition d'arrêt de la grève des maires est refusée. Alors, piteusement, Marcelin Albert va se constituer prisonnier au palais de justice de Montpellier. Il y retrouve son camarade Féroul, qui le désavoue en public. Discrédité, désavoué, le leader des gueux n'est plus. Mais pour les vignerons, l'été apporte son lot de victoires. Le 29 juin et le 15 juillet 1907, deux lois protégeant les vins naturels contre les vins trafiqués, lois tant désirées, sont promulguées. Et même si elles déçoivent les viticulteurs sur de nombreux points, elles ont un goût d'apaisement. Car ces lois sont plus protectrices que celles proposées quelques semaines plus tôt. À croire qu'on ne voulait pas raviver la colère des vignerons et qu'on a écouté la commission d'enquête parlementaire, celle-là même qu'avait rencontré Marcelin Albert et qui a enfin rendu son rapport. Donc, fini les habits de sucrage et les habits de mouillage, en tout cas sur le papier. Et les boissons vendues en gros chez les marchands de vin seront désormais soumises à des contrôles. Cerise sur le gâteau, des viticulteurs obtiennent des facilités de paiement pour les impôts non réglés et voient une partie de leur dette fiscale effacée. Dans le Midi, c'est la détente un peu partout. Les maires et conseillers municipaux reprennent peu à peu les chemins des hôtels de ville. L'armée se retire des rues. Et les leaders de la révolte des gueux sont finalement graciés en 1908. Ernest Féroult continuera sa trajectoire politique. Fin 1907, il prend la direction de la Confédération Générale des Vignerons du Midi, dont le rôle est de traquer les fabricants de faux vins et les faire condamner. Devenu persona non grata auprès d'une partie de l'Aude pour avoir par naïveté accepté un billet de 100 francs de la main de celui qui a fait couler le sang du Languedoc, Marcelin Albert doit s'effacer du combat pour le vin naturel qu'il menait pourtant depuis des années. Dans ses mémoires, il écrit
« Je ne pouvais croire à tant d'ingratitude de la part de mes concitoyens que j'aimais à l'égard de frères. Et c'est en frères ennemis, eux, qu'ils me traitaient. Le vide se faisait autour de moi. Il était défendu de m'adresser la parole sous peine de représailles. Des placards injurieux couvraient les murs. Les enfants répétaient des chansons obscènes sous mes fenêtres. Et j'endurais ce martyre pendant toute une année. Je dus travailler seul ma vigne, tout concours m'étant refusé. »
Inlassablement et jusqu'à la fin, Marcelin Albert continuera à cultiver son vignoble sur ses terres d'Argelier. En 1921, il meurt dans les dénuements.
France Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel.
Aujourd'hui, la révolte des gueux en 1907. On en parle avec notre invité Arnaud-Dominique Hout. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur à la Sorbonne, historien, spécialiste de la Belle Époque et auteur d'un ouvrage sur les peurs que cette période a suscité. Livre paru en 2022 aux éditions Talendier. Pouvez-vous nous en dire plus sur cette crise viticole qui frappe le Midi au début du XXe siècle? Parce que les historiens ont tendance à dire que si la production de faux vins est réelle, elle n'est pas la première cause de la mévente des vins du Languedoc, c'est vrai ?
Oui, c'est un ensemble de facteurs qui s'expliquent assez bien en réalité, parce que ce qui s'est passé, c'est qu'à la fin du 19e siècle, après le phylloxéra qui avait provoqué des grands chamboulements dans le monde de la vigne, il y a eu une spécialisation du Languedoc qui s'est mis à produire massivement du vin, c'est devenu vraiment la monoculture du Languedoc. Mmh. Et le problème, c'est que quand on est en monoculture, on est fragile. Parce que la moindre difficulté peut poser justement une crise. Et là, en l'occurrence, la mauvaise nouvelle, c'est pas habituel dans le monde paysan, mais c'est le beau temps les très bonnes récoltes de 1904-1905, qui font que, aussi bien dans le Languedoc que dans l'ensemble du bassin méditerranéen, on produit énormément de vin. Mmh. Et évidemment, plus on produit de vin, plus ça produit effectivement une baisse des prix. Et il y a une concurrence très forte également du vin algérien. Il ne faut pas oublier évidemment qu'à ce moment-là, on essaye de développer le vignoble algérien. Il y a un enjeu politique à développer justement ce vignoble. Et on a aussi du vin qui vient d'Italie, d'Espagne. Il y a une concurrence, ce n'est pas seulement la question du sucre.
Mais ça veut dire que les viticulteurs se voilaient un peu la face en disant que c'était les faux vins qui étaient à l'origine de leurs problèmes ?
Peut-être que l'avantage du vin sucré, du faux vin, c'est que ça permet de désigner un méchant. Ça permet de désigner justement un coupable. Et il y a deux éléments de ce point de vue-là qui sont importants. Le premier, c'est que les vignerons, c'est pas forcément une société unie. Ils se sont beaucoup déchirés, d'ailleurs, dans les années précédentes, parce que évidemment, il y a des propriétaires, il y a des journaliers, il y a des artisans qui n'ont pas tous les mêmes intérêts. Il y a eu des grèves, il y a eu des tensions très fortes. Donc, peut-être que là, désigner un adversaire commun, le fraudeur, ça simplifie les choses. Et puis, le deuxième aspect dans le même sens, c'est que si on désigne le fraudeur, c'est celui qui sucre le vin, et donc l'ennemi, c'est le sucre. Et le sucre, c'est la production de betteraves. C'est la moitié nord de la France. Et ça permet d'une certaine manière de faire une solidarité du sud contre le nord en disant, le problème, c'est qu'on favorise trop les betteraviers, les sucriers, au détriment de nos intérêts de vignerons.
Alors, parenthèse purement viticole, longtemps les vins du Languedoc ont eu une réputation de bon vin de table, enfin pas de quoi sauter au plafond. Et aujourd'hui, ce sont des vins très appréciés qui se sont développés, les méthodes se sont développées, ça marche très très bien.
Il y a eu une révolution du vignoble, c'est spectaculaire. C'est vrai que le vin du Languedoc du début du XXe siècle, et c'est vrai, une bonne partie du XXe siècle, c'est ça, c'est le vin du tout venant. C'est justement le vin qui résiste mal à la concurrence, parce qu'en fait, il n'a pas de qualité particulière, donc évidemment, c'est celui qu'on peut remplacer facilement.
Ouais, et ça a bien changé. Ce mouvement de manifestation paysanne, qui s'est tenu tous les dimanches, de mars jusqu'à juin 1907, est le plus important que la Troisième République a connu en termes de foule drainée. Pourtant, la Troisième République, on a connu des soubresauts, des manifestations énormes, notamment à Paris, et qui sont, pour certaines, très mal terminées dans les années 30, les années du péril. C'est étrange que ce soit cette problématique-là qui ait généré la plus grande manifestation de la Troisième.
En fait, c'est le révélateur d'une France qui est encore rurale. Jusqu'en 1931, la France est majoritairement rurale. Et donc, à ce moment-là, en 1907, c'est à peu près 60% des Français, un peu plus, qui vivent à la campagne. Donc, en fait, c'est pas si étonnant que ce soit justement un problème agricole qui soulève le plus de monde. Alors après, c'est vrai qu'en termes de mémoire et de visibilité médiatique, on connaît beaucoup mieux les manifestations parisiennes, parce qu'évidemment, les journalistes étaient à Paris.
Ah oui.
Et que ce qui se passe à Narbonne, à Montpellier, au début, c'est un petit peu loin tout de même. Mais c'est d'autant plus spectaculaire qu'on a des manifestations géantes dans des villes moyennes. Il y a 600 000 personnes à Montpellier.
L'effet est encore plus spectaculaire.
C'est totalement spectaculaire, parce qu'il faut imaginer que les trains sont totalement bondés et qu'on ne sait même plus loger les manifestants, parce qu'il y a beaucoup plus de manifestants que d'habitants. Il y a même l'évêque de Montpellier qui fait ouvrir la cathédrale pour permettre de loger justement des manifestants. Donc on voit bien que dans la ville, on ne voit que ça. Ce caractère presque insurrectionnel, justement, exceptionnel en tout cas.
Alors, est-ce qu'il est insurrectionnel, ou presque insurrectionnel, au bout du compte ? Parce que Clémenceau en a eu peur, évidemment.
Oui, Clémenceau a mis du temps à comprendre. Effectivement, Clémenceau, c'est un élu du Var, c'est quelqu'un qui connaît justement très bien cette région, et qui sait, ce qui est vrai, que la République fait de gros efforts pour les agriculteurs, et spécialement justement pour le sud de la France. Donc Clémenceau, je pense, n'a pas bien compris le risque, parce qu'il avait beaucoup plus peur du monde ouvrier dans la moitié nord de la France. Et il va être débordé, parce qu'il n'a pas senti justement cette coalition des mécontentements, qui va être très très rapide, ça se joue en quelques semaines. Et c'est pour ça qu'il est totalement piégé, parce qu'il est... Il n'a pas pris au sérieux le mouvement, c'est difficile ensuite de rattraper justement le phénomène. Ce qui est quand même insurrectionnel, c'est le moment justement où Féroul, le maire de Narbonne, se met à donner une dimension politique au mouvement.
Et de désobéissance civile surtout.
Exactement. Le moment où on appelle à la grève de l'impôt et le moment où on fait démissionner les mairies. Et puis ce symbole incroyable, le drapeau noir sur la mairie de Narbonne.
Oui. Oui, effectivement. Alors, on va sur le terrain purement politique pour le coup. Le mouvement lancé par Marcelin Albert et le comité d'Argelier se définit comme apolitique et interclasse. Alors, il prône l'union sacrée entre les royalistes et les socialistes, les patrons et les ouvriers. Et puis, il y a toujours ces débats autour de la République, ne l'oublions pas. Ses opposants l'appellent la gueuse encore à ce moment-là. La République n'a rien d'évident. Aujourd'hui, c'est évident. Mais pas à ce moment-là. Donc, comment la thématique de la République s'inscrit-elle là dans ce mouvement ou inversement?
Ce qui est intéressant, c'est qu'on est à un moment justement de basculement politique. Clémenceau, c'est quelqu'un qui vient de la gauche. C'est quelqu'un qui, à ce moment-là, est considéré comme un homme de gauche, qui a une majorité de gauche, mais qui est une majorité qui est de plus en plus centrale et qui vient de perdre, hein. C'est à ce moment-là qu'il perd l'alliance avec les socialistes. Féroul, le maire de Narbonne, c'est un socialiste. Donc, il y a une opposition de gauche qui est très 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 virulente et qui va vraiment être très active dans le mouvement du Midi. Et puis, dans le mouvement du Midi, il y a aussi des royalistes. Il y a l'Église. L'Église est très active parce qu'on sort de la séparation de l'Église et de l'État, de la crise des inventaires, voilà. C'est une Église qui est très remontée et qui joue un rôle important pour pousser aussi les villageois à s'organiser.
Et contre la République ? En fait, contre la République ?
Bah, les mots d'ordre, justement, essayent, et ça c'est Marcelin Albert qui réussit à garder cette dimension apolitique, les mots d'ordre appellent finalement à une reconnaissance du Midi, à une reconnaissance des droits des vignerons. Il n'y a pas vraiment de discours politique. C'est plutôt, justement, Clémenceau et sa majorité...
Qui politisent.
Qui vont politiser ça, parce qu'en fait, leur intérêt, c'est de dire... aux socialistes, vous vous êtes alliés à un mouvement qui est anti-républicain. Et donc, de jouer sur le fait que, bah, évidemment, si vous voulez défendre la République, il faut soutenir Clémenceau.
France Inter. Affaires sensibles.
Arnaud Dominique Hout, je rappelle que vous êtes historien spécialiste de la période de la Belle Époque et des peurs que cette période a générées. Nous, on parle aussi de réalité, donc la réalité de ce mouvement, cette mobilisation des viticulteurs du Midi est emmenée par ce Marcelin Albert. On va parler un peu de ce monsieur. Est-ce qu'on pourrait le comparer aujourd'hui? Alors je sais que comparaison n'est pas raison, juste pour donner une piste à quelqu'un comme José Bové. Je pense à la dimension des désobéissances civiles.
Oui, d'une certaine manière, je pense que ça fait partie des comparaisons qu'on peut oser. Marcelin Albert, c'est quelqu'un qu'on ne connaît pas si bien que ça en réalité. Il a publié ses mémoires peu de temps après, mais on n'a pas eu vraiment d'enquête, de contre-enquête un petit peu sur qui il était. C'est quelqu'un qui a d'abord été finalement un invisible, hein, qui effectivement est vigneron, il a des terres, pas beaucoup, c'est un petit vigneron, il est aussi cafetier, et puis il est aussi, et c'est plutôt ça qui est amusant d'ailleurs, un homme de théâtre, passionné
oui,
de théâtre.
Oui, c'était dit oui.
Voilà, et c'est une vraie curiosité. Alors, il y a quand même un détail qui est assez piquant, c'est que son premier surnom au début du mouvement, c'est Cigale. Et on le surnomme Cigale parce que pour haranguer les foules, il monte sur les arbres.
Ah oui.
Apparemment, il est assez doué, il sait monter à l'arbre. Et donc, bah évidemment, ça lui donne une allure un peu originale. Oui, c'est un original. C'est quelqu'un qui ne passe pas inaperçu, qui a un vrai charisme, qui a un vrai talent oratoire, mais qui, en revanche, n'est pas vraiment un fin politique. Mais face à Clémenceau, c'est sans doute pas facile d'être un négociateur.
Ah justement, comment traduire la phrase de Clémenceau le concernant? Concernant Marcelin Albert, il dit « ce n'est pas un chef, c'est un malheureux ».
Bah c'est, pour Clémenceau, c'est une bonne manière de dépolitiser le mouvement et en tout cas de se débarrasser de Marcelin Albert. Et il a réussi d'une main de maître. Mais il faut reconnaître que Clémenceau n'est pas tendre avec ses adversaires politiques et qu'il a un talent justement visant à se débarrasser de lui. C'est vrai par ailleurs que c'est un malheureux, surtout après. Parce qu'effectivement, comme le récit se terminait dessus, mais le pauvre Marcelin Albert, à la fin du mouvement, alors qu'il a été l'homme le plus acclamé avec des centaines de milliers de manifestants, il finit totalement isolé. Hein.
Oui, mais c'est terrible parce qu'il finit isolé notamment parce qu'il va chez Clémenceau et surtout parce qu'il accepte 100 francs.
Mais oui, parce qu'il ne voulait pas effectivement frauder son billet de train et qu'il accepte les 100 francs dont il a besoin. Mais bon, ça effectivement, politiquement, ça a été dévastateur.
Mais on sait quel était le ton, on ne sait pas ce qu'ils se sont dit, hein, mais non. Quel était le ton? Il a été admonesté, vous pensez? Il a reçu la leçon de Monsieur Clémenceau?
C'est pas sûr du tout. Clémenceau a un énorme avantage, c'est lui qui maîtrise le récit. C'est lui qui, à la fin, nous raconte l'histoire. On ne sait pas ce qui s'est passé.
Alors, appauvrissement, on va tenter une dernière comparaison. Appauvrissement généralisé, rassemblement tous les week-ends, interpellation du gouvernement, faut-il y voir des points plus ou moins communs avec les gilets jaunes ?
Alors, il y a des éléments, effectivement, qui peuvent nourrir un rapprochement. D'abord, le caractère, justement, qui se veut apolitique, même si, évidemment, un mouvement est toujours politique, mais qui veut sortir, justement, du cadre politique partisan classique, ça, c'est vraiment un élément très structurant. Il y a un autre élément, c'est la focalisation sur des revendications qui sont des revendications un petit peu morales. L'idée qu'il faut pouvoir vivre de son travail, l'idée que l'impôt, les taxes sont mal réparties, etc. Donc il y a des éléments qui sont assez structurants, assez classiques. Après, il y a au moins une grande différence, il y en a beaucoup bien sûr, mais il y a une grande différence, c'est que ce mouvement du Midi, c'est aussi un mouvement très fortement régional. Il y a une identité régionale qui joue. Ça a été aussi la force de Féroul, le maire de Narbonne, de jouer cette carte-là, parce que Féroul se met à faire certains discours en occitan. Et évidemment, à un moment où on a quand même une très très forte centralisation qui caractérise la République, c'est un message aussi très clair. La plupart des hommes qui l'écoutent et des femmes qui l'écoutent parlent l'occitan. Ils parlent le français, bien sûr, mais ils parlent aussi l'occitan. Et il y a un message un peu régional, identitaire, extrêmement fort, qui va aussi être un élément de la mémoire de 1907. Parce que cette mémoire de 1907, dans le siècle qui a suivi, c'est une mémoire très fortement centrée sur l'idée, justement, d'une revendication régionaliste.
Oui.
Ce qui n'est pas le seul aspect, hein, puisqu'effectivement, par d'autres aspects, c'est un mouvement social.
Pour finir, quel est l'état de la France en 1907, donc puissance mondiale, pays militariste et militarisé après la défaite devant les Prussiens, hein, encore traumatisante.
Oui.
C'est quoi la France de 1907 ?
Ah, c'est une France qui est en train de changer extrêmement vite. Ce qui caractérise cette notion de belle époque, c'est ça, c'est la modernité. C'est aussi sans doute pour ça, d'ailleurs, que cette révolte, elle est significative, parce que dans le Midi de la France, les choses changent moins vite. Et on voit, en revanche, à Paris, des fortunes qui se font. On voit des changements très très rapides. C'est le moment de l'électricité, c'est le moment de l'automobile. C'est le moment de changements qui sont très spectaculaires et qui contrastent, évidemment, avec une forme de pauvreté qui continue à exister dans le monde rural et qui est quand même la réalité quotidienne, justement, de ces populations du Midi. Et puis, c'est une France où l'armée a une place particulière. Et c'est ça aussi qui fait la célébrité de ces événements de 1907, c'est cette mutinerie des soldats qui ne veulent pas tirer sur leurs frères, sur leurs cousins, sur leurs parents, parce que ça va être dévastateur pour le mouvement. Le constat, évidemment, qu'il y a un risque de révolte de l'armée.
Merci infiniment, Arnaud Dominique Houtz. Ce sera le mot de la fin. Au revoir. Merci. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, la révolte des gueux du Midi, une émission que vous pouvez réécouter en podcast bien sûr, à la technique aujourd'hui, il y avait Thilaï Ravou.